D'après un sondage IFOP paru la semaine dernière dans l'hebdomadaire Dimanche Ouest France, plus de la moitié des Français, 58%, affirment être pessimistes sur l'avenir. C'est 9 points de plus qu'il y a tout juste un an. Et d'après ce journal, ce n'est pas très étonnant vu la situation actuelle. L'hebdomadaire poursuit en écrivant que les Français, je ne sais pas si votre cas, mais en tout cas les Français en général, font preuve de pessimisme sur les grands thèmes de société, comme la lutte contre l'insécurité, contre le chômage, contre l'augmentation du pouvoir d'achat, etc., etc., etc. Bref, pour la grande majorité de nos compatriotes, l'avenir s'annonce sombre, très sombre. Et l'impression générale est que, de manière inéluctable, quelque part, la situation va aller de mal en pis. Et pour nous en tant que chrétiens français ou étrangers habitant en France, qu'en est-il ? Faisons-nous preuve du même pessimisme, du même découragement face à l'avenir ? Mais peut-être au-delà de la situation globale de notre société, de notre monde, peut-être que vous abordez aussi cette année découragée ou défaitiste à cause d'une situation personnelle compliquée, pour l'une ou l'autre raison personnelle. Comment reprendre courage en tant que chrétien quand on voit une telle situation au niveau de notre monde actuel, la peur des attentats, la laïcité à outrance dans notre pays, ou dans notre vie personnelle, la maladie qui peut nous frapper, le chômage, des difficultés relationnelles de tout ordre. Comment reprendre courage en tant que chrétien ? Existe-t-il ne serait-ce qu'un moyen pour reprendre courage face à toutes ces situations qui peuvent, malheureuses que nous pouvons rencontrer sur cette terre et qui peuvent nous atteindre personnellement ? Dans un texte tiré de 2 Corinthiens, c'est le texte avant en fait, c'est la slide avant JB, merci, on reviendra au texte après. De 2 Corinthiens 4, verset 16 à 5, verset 10, dans ce texte-là, Paul nous indique la voie par excellence pour reprendre courage, malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer sur cette terre. Et cette voie, comme on va le voir, c'est au lieu de nous concentrer et de fixer nos regards sur notre situation terrestre avant tout, c'est de tourner nos regards vers l'avenir, vers notre avenir céleste. Parce qu'en tant que chrétiens, et ce que nous allons voir ce matin, nous ne pouvons pas être pessimistes quand nous voyons l'avenir. Nous devons être optimistes. Dans tout le texte que nous allons lire, Paul nous donne 3 raisons d'être optimiste, je vais y arriver, et de reprendre courage face à toutes ces situations en tant que chrétiens. Nous pouvons reprendre courage parce qu'un avenir radieux nous attend. Nous pouvons reprendre courage parce qu'une habitation éternelle nous attend. Et nous pouvons reprendre courage parce que des récompenses merveilleuses nous attendent. Et ma prière ce matin, c'est que ce texte soit une réelle source d'encouragement pour vous comme pour moi, pour chacun d'entre nous, quelle que soit la situation pénible peut-être que nous pouvons vivre aujourd'hui, ce matin. Et nous allons commencer notre texte donc, par la première section, chapitre 4, versets 16 à 18, dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Où Paul écrit « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elles nous préparent. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. » La première raison donc pour laquelle nous pouvons reprendre courage, c'est parce qu'un avenir radieux nous attend. Un avenir radieux t'attend si tu es enfant de Dieu. Paul était dans une situation où il aurait pu perdre courage, comme il le dit au verset 16. Il faut savoir qu'au moment où il écrit ces lignes, Paul vient de vivre une situation extrêmement difficile à Éphèse, dont on ne connaît pas vraiment les circonstances exactes, mais qu'il évoque au début de sa lettre aux 2 Corinthiens, où il écrit en 2 Corinthiens 1, verset 8, « Il faut en effet que vous sachiez, frères, quelle détresse nous avons connue dans la province d'Asie. Nous étions écrasés, à bout de force, au point même que nous désespérions de conserver la vie. Paul était désespéré au point même de ne pas être sûr de conserver sa vie. Paul, comme chacun d'entre nous, n'était pas immunisé contre le découragement. Dans cette situation qu'il vivait difficile, il aurait eu de nombreuses raisons de perdre courage, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au lieu de tourner son regard, comme je disais au début, vers toutes ces situations, sources de découragement, présentes à ce moment-là dans sa vie, il est dit dans ses versets suivants, son âge avancé, ses détresses, toutes les choses visibles qu'il pouvait voir autour de lui et qui étaient négatives, il a tourné son regard vers l'avenir, son renouvellement intérieur, la gloire céleste qui l'attendait, toutes les choses invisibles ou spirituelles. Et les trois versets, versets 16 à 18, dénotent trois contrastes. Le premier au verset 16, un contraste entre l'être extérieur et l'être intérieur de l'autre côté. Malgré tous les progrès de la médecine, malgré tous les progrès de la chirurgie esthétique, un fait demeure. Vous l'avez tous remarqué, nous vieillissons. Nous vieillissons. Et c'est un phénomène contre lequel on ne peut rien faire. À part avoir recours au bistouri, mais c'est juste pour un court temps. Notre être extérieur se détériore peu à peu. Et nous avons peut-être des cheveux blancs. Ça va pour moi encore. Moins de souffle. Plus de courbatures. Si vous êtes parent comme moi, vous vous rendez encore plus compte peut-être que vous vieillissez avec les enfants qui grandissent. Je me souviens par exemple de la première fois où Tom, mon fils aîné, m'a battu au memory. Je me suis dit, bah, pétard, mince. Récemment, il a continué, il m'a battu au ping-pong. Et pourtant, je peux vous dire que je n'avais pas envie qu'il gagne. Hein. Mais c'est comme ça. On se fait battre même au ping-pong, rien ne va plus. Mais c'est ainsi. Il faut que je me fasse une raison. Pendant que je suis en train de vieillir, lui, il grandit. Parce que quand nos enfants grandissent, quelque part, c'est que nous, on ne grandit plus tellement, mais on se rapetissait peut-être un petit peu, mais on vieillit. Et si on ne regarde qu'à notre être extérieur, si on ne regarde qu'à nos difficultés, si je regarde que à ma balle de match, là, où j'aurais pu peut-être prendre la balle si j'avais eu 2-3 ans de moins, mais si je regarde que à mon être extérieur, il y a de quoi parfois être découragé. Et désespéré même. Mais Paul nous recommande, lui, de nous concentrer non pas sur notre être extérieur, mais sur notre être intérieur, sur le renouvellement de notre être intérieur. Parce que nous sommes renouvelés de jour en jour par la présence du Seigneur. Le corps physique se décompose. On voit la courbe bleue. C'est un peu ça. Notre corps se décompose petit à petit. Mais quelque part, en même temps, normalement, notre être intérieur, la courbe rouge, devrait progresser petit à petit devant Dieu. Avec l'expérience, avec l'âge, avec l'expérience d'une vie plus longue avec Dieu, une connaissance plus approfondie de la parole, une relation plus intime avec notre Père, notre être intérieur progresse, se renouvelle de jour en jour. C'est un fait. Pour le moment, la rédemption n'est valable que pour notre être intérieur ici-bas. Et pas pour notre être extérieur. Romains 8, versets 23-25. Nous qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établi notre condition de fils adoptif de Dieu. Quand notre corps sera délivré, car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui en effet continue à espérer ce qu'il voit ? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. Paul était tiré. Il se rendait bien compte que son être intérieur était sauvé, mais pas son corps, et on y reviendra plus tard. Pour l'instant, c'est uniquement notre être intérieur, cette terre, qui est sauvée en tant que telle. Il paraît que Michel-Ange a dit que plus le bloc de marbre est amenuisé, plus la statue prend forme. Est-ce que cela est vrai dans nos vies respectives ? Est-ce que le Seigneur est en train d'amenuiser le bloc de marbre que nous sommes ? Pour que nous puissions être à la stature de Christ au fur et à mesure des années, ce cheminement terrestre. Est-ce que nous laissons le Saint-Esprit nous renouveler petit à petit pour atteindre la stature de Christ ? Aujourd'hui, on met beaucoup l'accent, sans doute trop, à l'aspect extérieur, à l'être extérieur, à notre présentation. Est-ce que, en tant que chrétien, nous savons mettre l'accent à notre être intérieur, laisser Dieu nous renouveler jour après jour? Si nous voulons reprendre courage, nous pouvons regarder au renouvellement intérieur dans nos propres vies. Mais pour cela, il faut aussi laisser le Saint-Esprit agir dans nos vies, être à son écoute pour être renouvelé par lui. Au verset 17, le même contraste entre les détresses présentes et la gloire éternelle qui nous attend. Paul qualifie ces détresses de passagères et légères dans ce passage. Mais quand on sait un peu de quoi a été fait la vie de Paul, c'est loin d'être le cas à vue humaine. Voilà ce qui est écrit un peu plus loin dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. En 2 Corinthiens 11, versets 24 à 28, il parle un peu de sa vie, et il dévoile un pan de sa vie où il écrit « 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté, 1 fois lapidé, j'ai vécu 3 naufrages, j'ai passé un jour et une nuit dans la mer, souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans les régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, des compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans la ville, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause de faux frères. J'ai connu bien des travaux et des peines. De nombreuses nuits blanches, la faim, la soif, de nombreux jeûnes, le froid, le manque d'habits, et sans parler du reste. Je porte mon fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. » Passagères et légères, les difficultés de Paul. À vue humaine, ces difficultés étaient tout le contraire. Elles étaient intenses, lourdes, douloureuses. Comment Paul peut-il en arriver à dire que ces difficultés sont passagères et légères? L'explication réside dans le fait de ce à quoi Paul compare ces difficultés. Considérer seul les difficultés de Paul et nos difficultés à chacun d'entre nous sont forcément lourdes, difficiles, peut-être même invivables. Mais comparer au poids éternel de gloire auquel nous prépare notre vie terrestre ici-bas, cela devient tellement peu de choses, en tout cas aux yeux de Paul. Paul peut les considérer comme une bagatelle passagère, parce qu'elles sont tellement peu de choses face à la gloire éternelle. L'éphémère, et notre vie est de l'éphémère. L'éphémère, si dur soit-il, pâlit au regard de l'éternité pour Paul. Paul affirme de la même manière en Romains 8, verset 18, « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. » Autrement dit, les difficultés présentes, quelles qu'elles soient, et la gloire éternelle ne peuvent être comparées. Il n'est même pas raisonnable de comparer les deux. Je crois que Dieu nous a laissé une illustration magistrale quelque part dans la vie, dans nos vies, de cette aspect du fait que la gloire éternelle est tellement supérieure aux difficultés présentes, à travers un événement particulier, un accouchement. J'imagine qu'aucune femme, malgré tous les progrès de la médecine aujourd'hui, avec la péridurale, tout ce qu'on peut faire pour la souffrance, c'est une bonne chose, qu'aucune femme n'arrive pour son accouchement, alors je ne peux pas le dire pour moi, je n'ai jamais accouché, mais je peux le dire pour moi, n'arrive à son accouchement avec le sourire aux lèvres en se disant « chouette, je vais accoucher ». Il y a toujours une tension, il y a toujours une retenue, il y a toujours, on a peur, on craint ce moment qui va être forcément compliqué. Mais qu'est-ce que ça représente quand on a le bébé, quand la maman a le bébé dans ses bras? Tellement peu de choses. Et la plus grande preuve, c'est que plusieurs femmes y reviennent. Une deuxième fois, une troisième fois. Elles continuent. Ce n'est pas parce qu'elles ont envie de souffrir, bien entendu. Quel est le poids de ce temps difficile par rapport à cet enfant qui est dans nos bras? Tellement peu de choses. Et c'est de cette manière-là qu'il faut imaginer les choses. Quel est le poids de la souffrance présente par rapport à la gloire éternelle qui nous attend? Tellement peu de choses aussi. Les difficultés dans nos vies peuvent être parfois très lourdes et je ne me permettrai pas de les minimiser. Je ne connais pas toutes vos difficultés, je ne me permettrai jamais de les minimiser. Mais je suis convaincu que la perspective de la gloire éternelle doit être comme un baume sur notre cœur, comme une consolation face aux difficultés présentes, parce que ces difficultés vont s'arrêter un jour ou l'autre. Et c'est la gloire éternelle qui nous attend après. Troisième contraste au verset 16, les choses visibles et les choses invisibles. Les choses visibles dans ce texte, dans ce verset, font référence à toutes les choses matérielles qui ne durent qu'un temps, qui sont éphémères, encore une fois, alors que les choses invisibles sont les choses spirituelles, les choses éternelles. Ces réalités invisibles sont celles que nous ne voyons que par la foi et qui appartiennent au monde à venir, à l'éternité. Comme le dit Hébreux 11, verset 1, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Paul nous invite à voir quelque chose qu'on ne peut pas voir. Pas avec nos yeux, mais avec notre cœur, avec notre foi, nous sommes appelés à le voir. Paul nous appelle à dépasser ce qui est temporaire, ce qui fait partie de ce monde, pour nous placer face à l'éternité, au monde à venir, pour ainsi reprendre courage dans nos vies. Ce qui caractérise tout le monde matériel, encore une fois, c'est sa fragilité, sa finitude. Tout cela est appelé à disparaître. Au lieu de tourner nos regards vers toutes ces choses visibles qui attirent notre regard, forcément, mais sont éphémères, nous sommes appelés à regarder dans une autre direction, vers l'invisible, vers les choses spirituelles, vers Dieu, à travers le regard de la foi. Parce que je sais que Dieu me prépare un avenir glorieux, malgré toutes les difficultés que je peux vivre présentement. C'est en regardant dans la bonne direction, vers l'avenir radieux qui nous attend, que nous pouvons reprendre courage aujourd'hui dans nos difficultés. Car nous savons par la foi que l'issue finale sera positive. Malgré toutes les difficultés qu'il y a dans notre monde, malgré toutes les difficultés que je peux vivre personnellement, l'issue finale sera positive. Christ règnera. Réfléchissez. Après 1 ou 2 milliards dans l'éternité, 1 ou 2 milliards d'années dans l'éternité, que représentera nos quelques années sur cette terre, les quelques difficultés que nous aurons vécues? Qu'est-ce que ça représentera? C'est un moyen, je pense, puissant pour nous encourager dans nos difficultés présentes, la perspective de l'éternité, de l'avenir radieux promis par Dieu. Nous poursuivons le texte au chapitre 5, versets 1 à 7. « Nous le savons en effet, si notre corps, cette tente que nous habitons sur la terre, vient être détruit, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Car dans cette tente, nous gémissons parce que nous attendons avec un ardent désir de revêtir par-dessus ce corps notre domicile qui est de nature céleste. Si bien sûr cela se produit tant que nous sommes encore vêtus de notre corps et non quand la mort nous en aura dépouillé. En effet, nous qui vivons dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais revêtir un vêtement par-dessus l'autre. Ainsi, ce qui est mortel sera absorbé par la vie. C'est Dieu lui-même qui nous a destiné un tel avenir et qui nous a accordé son esprit comme acompte des biens à venir. Nous sommes donc en tout temps pleins de courage et nous savons que tant que nous séjournons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous vivons guidés par la foi, non par la vue. Et la deuxième raison, une deuxième raison pour laquelle nous pouvons reprendre courage aujourd'hui, c'est parce qu'une habitation éternelle nous attend, un nouveau corps. Dans ce passage, Paul poursuit ce qu'il a écrit au chapitre précédent, en nous dévoilant encore un autre contraste saisissant entre notre corps actuel, notre habitation actuelle, et notre habitation future. Au verset 1, il dit « Nous savons ». Il ne dit pas « Nous espérons », il ne dit pas « Nous croyons », il ne dit pas « Nous pensons », nous savons. La foi de Paul dans la résurrection est une foi, une assurance ferme de cette résurrection. Et c'est ce qu'il développe dans la suite de ces versets. Paul compare notre corps à une vieille tente, plus ou moins jolie, hein, selon les uns et les autres. Et par définition, une tente, c'est quoi? C'est pas une habitation tous les jours, normalement. C'est une habitation nomade, une habitation qui n'est pas faite pour durer. Nous sommes dans ce corps physique, comme dans une tente, comme des voyageurs, à l'image des héros de la foi, dans Hébreux 11, verset 13, ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous voyageons sur cette terre à travers notre corps pour l'instant. Pour l'instant, nous sommes dans un abri temporaire dans lequel nous campons quelque part. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à votre corps comme une tente, mais c'est comme ça. Et cette tente se détruira un jour ou l'autre. Dieu nous promet tout autre chose pour notre avenir. Ce ne sera plus une tente. Ce sera une maison, un palace que Dieu nous réserve pour chacun d'entre nous. Jésus l'a lui-même promis en Jean 14, versets 2 à 3. « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'est pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. » D'une tente marquée par la fragilité, l'insécurité, l'éphémère, nous allons passer à une maison marquée par la solidité, la sécurité, la permanence. Paul ajoute que ce corps ne sera pas fait de mains d'hommes, au verset 1. Et cela fait directement référence, je pense, à ce que Jésus a dit lui-même de son propre corps après sa résurrection. En Marc 14, verset 58, « Je démolirai ce temple fait de mains d'hommes. » Et en 3 jours, il parlait de son corps, bien sûr, « Je reconstruirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. » Ce passage indique clairement, en tout cas, que l'espérance du chrétien, ce n'est pas une âme vagabonde, quelque part. Mais c'est un corps physique que nous habiterons à la résurrection des morts, quand Jésus reviendra. Notre espérance, c'est d'avoir un corps physique, mais d'une autre nature. Un nouveau corps nous attend, un corps conçu pour l'éternité. Mais en quoi consiste exactement ce corps? Paul l'explique dans 1 Corinthiens 15, versets 42 à 44, où il dit « Lorsque le corps est porté en terre, comme la graine que l'on sème, il est corruptible. » Il parle de notre corps actuel. « Il ressuscite incorruptible, se met infirme et faible, il ressuscite plein de force. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. Nous aurons un corps marqué par l'incorruptibilité. La marque du péché aura disparu. La marque du péché, de notre péché, aura disparu. Par la force, nous aurons des capacités physiques bien supérieures à celles que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Par le règne de l'Esprit de Dieu, la nature même de notre corps sera différente. Pour l'instant, nous sommes encore dans ce corps physique que nous avons chacun. Mais nous pouvons parfois gémir, soupirer après ce nouveau corps, comme Paul le fait au verset 2, au verset 4. Nous attendons peut-être impatiemment de pouvoir revêtir ce corps glorifié, ce corps incorruptible. Si vous êtes en bonne santé, comme moi aujourd'hui, peut-être que l'idée d'un corps incorruptible comme source d'encouragement, vous dites, ouais, peut-être, pourquoi pas, après tout, sans réflexion. Mais quand on réfléchit un tout petit peu, est-ce que ça serait la même chose quand vous êtes malade? À part juste 2 ou 3 degrés de plus en température corporelle, on n'arrive déjà plus à se lever du lit. Est-ce que c'est toujours la même chose? Est-ce que c'est la même chose quand on vieillit et que les marches d'escalier sont toujours plus hautes à passer? Don Carson, dans son livre « La prière renouvelée » que nous avons étudié en groupe de quartier il y a quelques années, a écrit « La retraite ou l'incapacité physique révèle souvent où est véritablement notre cœur. L'évêque Stanway a évangélisé et implanté des églises dans toute l'Afrique orientale, dont plus de 20 dans la seule Tanzanie, ce qui lui a valu le surnom d'apôtre de Tanzanie. Une fois à la retraite, il participa à la fondation d'une faculté de théologie aux États-Unis. Mais quand je fis sa connaissance, il était déjà retourné dans son Australie natale et la maladie de Parkinson avait atteint un stade tellement avancé qu'elle l'empêchait de parler. Il communiquait en écrivant sur un carnet, ou plus exactement, en esquissant des lettres majuscules d'une main tremblante. Lorsque je le connus un peu mieux, je trouvais le courage de lui demander comment il vivait cette maladie invalidante. Après des dizaines d'années passées à travailler sans relâche et à produire des fruits innombrables, après des dizaines d'années passées à travailler sans relâche et à produire des fruits innombrables, comment supportait-il cette mise à l'écart? Il dut s'y reprendre à 2 fois pour que je puisse déchiffrer sa réponse. Il n'y a aucun avenir dans la frustration. Il n'y a aucun avenir dans la frustration. Voilà un homme qui se refusait le luxe de la frustration. Il vivait dans la perspective de l'éternité, où ce sentiment n'a aucune place. N'ayant pas lié son ego à son travail, il ne se sentait pas menacé lorsque la maladie l'obligea à renoncer aux formes actives et fructueuses de son service. Il continua à faire confiance au maître et à rechercher l'excellence dans les limites qui étaient désormais les siennes. Savoir qu'un corps glorifié nous attend peut être un puissant encouragement pour beaucoup, notamment tous ceux qui vivent des maladies pénibles, invalidantes. Et il y en a parmi nous. Pensez à Barbara qui est là. Pensez à Trifon. Pardon. Cher. Ils peuvent reprendre courage. Un corps glorifié les attend. On va y arriver. C'est un puissant encouragement. Peut-être qu'on ne se rend pas compte quand on est en bonne santé, mais c'est un tel encouragement. Au verset 5, Paul affirme que nous pouvons être certains que ce nouveau corps nous attend, car Dieu lui-même nous a destinés à un tel avenir. Dieu nous a destinés à la résurrection. Et pour bien nous montrer que ce n'est pas une promesse en l'air, il nous a accordé le Saint-Esprit ici même, comme acompte des biens à venir. Et nous savons qu'un acompte est une garantie que la somme totale sera versée par la suite. Le Saint-Esprit vient habiter le chrétien comme une garantie qu'un jour nous serons ressuscités auprès de Dieu, qu'un jour nous aurons un corps incorruptible pour vivre l'éternité avec lui. Cela rejoint la prédication de Raph il y a deux dimanches, en Philippiens 1, verset 6. « Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement. » Et cet achèvement, c'est aussi ce nouveau corps, c'est aussi cette perspective éternelle auprès de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes encore loin du Seigneur. C'est ce que Paul dit au verset 6. Nous sommes donc en tout temps pleins de courage et nous savons que tant que nous séjournons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes loin du Seigneur, car nous sommes dans ce corps corruptible. Mais nous ne pouvons pas encore voir Dieu. Notre communion avec le Saint-Esprit est réelle, mais imparfaite. Nous ne pouvons que goûter à la communion du Seigneur. Mais nous goûterons pleinement le jour où nous serons auprès de lui. Pensez dans votre vie au moment le plus merveilleux, le plus intense que vous avez pu vivre dans votre vie chrétienne de proximité avec Dieu. Peut-être un temps de communion particulier avec des frères et sœurs. Peut-être un temps particulier dans votre culte personnel. Vous l'avez bien en tête ce moment ? Ou ces moments, j'espère ? Eh bien, tous ces moments-là, aussi intenses, sont encore demeurés loin de Dieu par rapport à ce que nous allons vivre le jour où nous serons auprès de Dieu. C'est à peine inimaginable la proximité que nous vivrons avec Dieu à ce moment-là. C'est merveilleux, extraordinaire. Face à la maladie, face au sentiment d'être loin de Dieu, qui peut parfois nous gagner aussi, nous pouvons reprendre courage parce qu'un corps incorruptible nous attend, une habitation éternelle nous attend, qui nous permettra de vivre l'éternité et l'éternité tout proche de Dieu. Et le troisième encouragement, on le trouve dans les trois derniers versets, verset 8 au verset 10. Nous sommes pleins de courage, mais nous préférions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Aussi que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur, car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aura accompli par son corps. La troisième et dernière raison d'être encouragé, c'est que des récompenses merveilleuses nous attendent. L'affirmation de Paul au verset 8 indique clairement que dès notre mort, nous serons auprès de Dieu. Philippe, dans sa prière en parlant du brigand, l'a bien souligné. Dès notre mort, nous serons auprès de Dieu. Il n'y aura pas d'attente. Il n'y aura pas de temps de sommeil pour l'âme. Il n'y aura pas de purgatoire. Nous serons auprès de Dieu. Nous n'aurons peut-être pas encore le corps qui viendra par la suite, mais nous serons auprès de Dieu. La mort est comme une sorte de porte qui nous introduit immédiatement dans la présence de Dieu. en attendant la résurrection de notre corps. Mais en attendant de pouvoir être auprès de Dieu, une seule ambition doit nous diriger. Et Paul la mentionne au verset 9. Notre ambition, votre ambition, mon ambition, aujourd'hui, est de plaire à Dieu. Est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce que ça veut dire, plaire à Dieu? Comment plaire à Dieu? Je crois que Paul, encore lui, en indique le chemin en Romains 12, verset 1. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. Un chrétien ambitieux est celui qui cherche avant tout à plaire à Dieu en offrant sa vie. C'est-à-dire, entre autres, par exemple, on pourrait faire toute une liste, être un élément de paix, vouloir toujours mieux le connaître, chercher sa volonté dans toutes les situations et s'y soumettre, faire preuve de bienveillance vers ceux qui m'entourent, etc., etc., etc. Cette ambition de plaire à Dieu aura une répercussion dans l'éternité à travers notre comparution devant le tribunal de Christ, dont Paul en fait mention au verset 10. En quoi consiste ce tribunal? Alors, il ne s'agit pas, absolument pas, d'un lieu où Dieu se prononcera sur notre salut. Nous sommes sauvés en tant qu'enfants de Dieu. Si tu connais Christ comme ton sauveur et Seigneur, tu es sauvé. Et cela ne sera jamais remis en cause. Donc Christ ne se prononcera pas à propos de notre salut à ce moment-là. Mais il se prononcera pour évaluer la vie de chacun de ses enfants individuellement. C'est-à-dire toutes nos actions, paroles, pensées, après notre conversion. Et toutes ces paroles, pensées et actions, il souhaite les récompenser. Il souhaite, en plus du salut, nous récompenser encore. Dieu est un Dieu généreux, tellement généreux que le salut n'est pas suffisant comme cadeau. Il veut encore nous en donner d'autres. La notion dans ce verset 10 d'actes bons ou mauvais qui seront jugés à l'occasion du tribunal de Christ ne fait pas référence à quelque chose en lien avec la morale. Encore une fois, le problème du péché est réglé. On n'y revient plus. Mais fait plutôt, je pense, référence entre ce qui a de la valeur au regard de l'éternité, ce qui a de la valeur au regard de Dieu et ce qui n'a pas de valeur. Qu'est-ce qui dans ma vie a de la valeur au regard de l'éternité et qu'est-ce qui n'en a pas? 1 Corinthiens 3, versets 11 à 15, Paul explique cela. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement, il parle ici du tribunal de Christ, montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui a réussi à échapper au feu. Comme l'a dit un commentateur, les croyants ne sont pas sauvés par les bonnes œuvres, mais ils sont sauvés pour de bonnes œuvres. Nous sommes sauvés pour œuvrer pour Christ. Et ce que nous pouvons faire, les actes que nous pouvons faire, qui ont une portée dans l'éternité, qui ont de la valeur aux yeux de Dieu, seront récompensés à leur juste valeur par Christ. Il ne s'agit pas forcément de la quantité des choses faites. Il s'agit, je pense, plutôt de la qualité, des motivations qui nous habitent pour faire les choses. Parce que Christ n'est pas dupe par rapport aux motivations qui habitent nos cœurs parfois. La pensée du tribunal de Christ devrait nous habiter. Pas pour en avoir peur, mais plutôt pour redoubler notre ardeur pour servir Christ. Christ veut nous récompenser, veut nous donner des récompenses merveilleuses pour l'éternité. Si nous sommes prêts et prêtes à les rechercher durant notre temps présent, ici-bas. Le Nouveau Testament évoque 5 couronnes, 5 récompenses possibles liées à des domaines spécifiques. Une récompense pour avoir amené des âmes à Christ, en 1 Thessaloniciens 2, verset 19. Une récompense pour avoir su maîtriser la chair et ses désirs, en 1 Corinthiens 9, 25. une récompense pour avoir attendu le retour de Christ avec passion. 2 Timothée 4, verset 8. Une récompense pour avoir tenu ferme face à la tentation. Jacques 1, verset 12. Et une dernière, une récompense pour avoir pris des responsabilités au sein de l'Église de Christ. 1 Pierre 5, verset 4. Voilà 5 récompenses. Ce n'est pas forcément une liste exhaustive. J'imagine qu'il y en a d'autres. Mais c'est les 5 couronnes qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Dieu veut nous récompenser pour notre vie terrestre, pour notre vie de service, pour ce qui a de la valeur à ses yeux dans nos vies. Dieu veut nous offrir des récompenses merveilleuses et cela devrait nous redonner courage, nous redonner un coup de boost, notre vie de service pour lui. Francis Chan, qui a écrit entre autres Crazy Love, je sais que beaucoup ont lu, dans un de ses messages a illustré cette notion avec beaucoup d'originalité, de beauté, je trouve. Et je voulais juste vous passer une courte vidéo, et là je vais faire appel à la technique, qui dure 2 minutes, dans cette notion de pourquoi je vis. Il y aura les sous-titres en français.
Imagine this rope. Okay, pretend this rope just goes on forever. Okay? Just imagination. Pretend it goes around the world a few times. It doesn't. It ends at the rock. But let's just imagine this thing goes on forever. Now imagine that this rope is a timeline of your existence. You just exist forever. You see this red part? This would represent your time on earth. You've got a few short years here on earth, and then you've got all of eternity somewhere else. This is your existence. And what blows me away is some of you, all you think about is this red part. It's all you think about. You're consumed with this. You go, oh man, I can't wait till here. You know, I'm going to work hard. I'm going to save, so I can really enjoy this part right here. And you're consumed with that, and you're thinking, oh man, am I going to get to travel? Am I going to eat well? Am I going to do this during this part? And I'm like, are you kidding me? What about all this stuff? It's crazy to me because the Bible teaches that what I do during this little red part determines how I'm going to exist for millions and millions and millions of years forever. And so why would I spend this little red part trying to make myself as comfortable as possible, enjoying myself as much as I can? Paul says, look, I'm going to live my life for this mission. I'm going to spend my life, invest my life for this moment when I cross that finish line. See, I'm going to forget about all the stuff I could enjoy, and I'm not going to look around. I'm going to be like a runner just looking at that moment when I face God, because when I face him, then I don't get this chance over again. We get one chance at this life on earth, and it can end at any second for any of us. We've got one chance at this, and then comes eternity. And I'm not going to be fooled. I'm not going to spend my life down here. See, people look at some of my decisions and go, oh, you're so stupid because that's going to really affect this. I go, no, you're stupid because it's going to affect all of this. Man, I'm serious. I look.
Qu'est-ce que je fais dans ma vie qui aura un impact sur l'éternité? Peut-être si tu ne connais pas le Seigneur, c'est le moment de te poser une bonne question. Peut-être si tu connais le Seigneur, c'est le moment de te poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans l'éternité, dans ce que tu peux faire et produire dans cette vie. En conclusion, vous avez perdu courage? Vous êtes découragé à cause de la situation de notre société, d'une situation personnelle? Alors rappelez-vous ces merveilleuses promesses qui, je crois, sont vraiment là pour nous, permettre de reprendre courage dans nos vies. Un avenir radieux t'attend, l'éternité. Une habitation éternelle t'attend, un corps incorruptible. Des récompenses merveilleuses t'attendent, parce que Christ veut te récompenser pour tout ce que tu as fait pour lui. Nous puissions prendre un temps peut-être pour réfléchir à ces notions et nous repositionner devant Dieu. Amen.